Bonjour à tous, nous sommes réunis pour un show devant ciné avec Little Girl Blue. Should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. Bonjour Léo.
Et bonsoir Vanessa.
Ah oui, c'est vrai, bonsoir, la nuit tombe. On va commencer cette semaine avec un film somptueux. Un film d'une candeur rare et d'une élégance. Une Marion Cotillard que je n'avais pas vue aussi habitée, et c'est le cas de le dire, et aussi aussi incroyable dans un rôle vraiment vraiment qui lui sied à ravir et risqué. Et je trouve qu'elle a fait un travail fou. D'ailleurs, c'est la réalisatrice Mona Achache. Mais Léo, dis-nous de quoi ça parle.
À la mort de sa mère, Mona Achache découvre des milliers de photos, de lettres et d'enregistrements. Mais ses secrets enfouis résistent à l'énigme de sa disparition. Alors, la puissance du cinéma et la grâce de l'incarnation, elle décide de la ressusciter pour rejouer sa vie et la comprendre.
Si je peux vous parler du film, c'est que j'ai eu la chance de le voir en avant-première au Pathé Wilson. Donc bien sûr, une projection presse avec mes collègues. Et après, la rencontre avec la réalisatrice Mona Achache. Et d'habitude, je prends des exemples, des moments de la conférence de presse. Mais là, nous étions trois avec la réalisatrice. Il y avait Louis-Marie Solaire de Radio Présence, Joël Attard des Fiches de Monsieur Cinéma, et moi-même, et on s'est retrouvés tous les trois, et je vais faire quelque chose d'assez impensable. Je vais vous passer l'intégralité de cette conférence de presse avec la réalisatrice, parce que c'était vraiment une très très belle conversation avec elle. On a partagé des choses, on a été complémentaires sur nos questions. On a été d'ailleurs félicité par la réalisatrice. Et voilà, j'avais envie de vous faire ce cadeau et de vous offrir l'intégralité de cette conférence de presse.
Votre film, il fait référence à une chanson de Janis Joplin qui raconte l'histoire d'une petite fille triste. Cette petite fille triste, c'est pas que vous, c'est toute une génération de petites filles tristes.
Oui, exactement. C'était l'idée première du film, c'était de raconter une lignée de femmes qui, malgré elles, ont reproduit des chagrins, des failles, des forces aussi, mais il y avait cette idée de petite fille triste, de chagrin qui vient se nicher dans l'enfance. Mais à la fois, je voulais aussi raconter le feu de ces histoires-là, et c'est vrai que Janis Joplin était la parfaite incarnation de ce grand blues, de cette grande mélancolie et en même temps de cette grande puissance.
Est-ce que Janis Joplin, c'est une chanson que vous avez choisie vous, ou qui était intergénérationnelle, qui était aussi à l'époque un petit peu de votre maman? Ça correspondait aussi à cette période qu'elle a vécue un petit peu aux États-Unis.
Oui, il y avait cette envie de raconter la période flamboyante, paradoxalement aussi, pas que destructrice, qu'avait vécu ma mère. Et puis, comme dans tout le film, j'utilise aussi des matières personnelles, intimes, pas seulement des archives, des photos, mais cette musique, c'est celle qu'on a utilisée, c'est celle qu'on a choisie avec mon frère le jour de l'enterrement de ma mère, de notre mère, et je n'ai jamais trouvé musique qui me raconte mieux ce qu'elle était.
Votre film est une véritable introspection. Vous avez décidé de le faire quand vous avez ouvert les cartons que vous refusiez à ce moment-là de voir. Et au moment du déménagement, vous les avez ouverts. Est-ce que vous aviez pas... Enfin, vous étiez impatiente, mais est-ce que vous n'avez pas peur de ce que ça vous feriez de voir justement ce film fini?
Alors, au début, il n'y avait aucune impatience d'ouvrir ces caisses, mais c'est vrai qu'elles ont été le symbole de tout mon chemin. Au début, je ne voulais pas les ouvrir, je voulais les abandonner. Elles me semblaient raconter tout ce passé lourd et encombrant, et j'avais l'impression aussi que peut-être ma mère allait nous débarrasser de quelque chose avec son suicide. En fait, pas du tout. On est emprunt de notre histoire. Il faut pouvoir la découdre, la nettoyer pour la transmettre à nos enfants. Et j'ai décidé d'ouvrir ces caisses. Et j'ai trouvé ces photos de ma mère qui ont déclenché des questions. Comment cette femme si belle, si libre, était devenue cette femme qui avait eu ce processus si violent de détérioration psychique et physique. Et puis j'ai trouvé sa voix qui a généré cette envie, au-delà, enfin avant l'envie de film, cette envie de vie presque infantile, de faire revenir ma mère pour qu'on puisse avoir une discussion et que je puisse mieux comprendre son parcours. Mais à partir du moment où la décision du film est venue, où je me suis mise à écrire, où tout ce matériel familial oppressant est devenu un matériel cinématographique galvanisant, passionnant. Non, j'avais très très peur. Et j'ai toujours très très peur quand je montre un film. Là, la peur n'est pas exclue, mais j'avais très très hâte, très envie qu'il aboutisse.
Vous avez décidé en fait de faire d'une certaine façon une enquête par rapport à ce qu'était votre mère et en utilisant tout ce matériau important. Mais à quel moment vous avez choisi de la faire incarner? C'est parce que vous vouliez, vous l'avez dit à l'instant, vous vouliez avoir un dialogue avec elle pour trouver cette forme cinématographique qui tient à la fois du documentaire, mais aussi de la fiction. Et vous, comment vous êtes-vous placé? Avez-vous pu composer entre votre rôle de fille d'eux et de metteuse en scène?
C'est vrai que dans ce film, ça me semblait important, j'avais envie de laisser exister ces liens parallèles qui ont subsisté entre moi, réalisatrice, fille d'eux, Marion, comédienne, Carole, et de voir comment tous ces points de liaison entremêlés allaient construire le film. Au départ, il y a mon enquête, il y a ce chemin documentaire, et il y a ce désir, mon désir de que ma mère devienne l'héroïne d'une fiction qui raconte sa vie, de la sortir un peu de l'oubli, du silence, de la violence de sa mort et de la faire revivre et qu'elle puisse briller, exister à travers un film. Et dans ce film-là, ça me semblait donc important de garder une trace documentaire de ce point de départ pour ensuite s'émanciper vers la fiction. Que je sais que plus le film avance, plus on s'attache au personnage de Carole, on y croit, on aime Carole. Elle finit par être écoutée, aimée, entendue, chose qu'elle n'a pas été suffisamment dans sa vie, mais parce qu'elle était difficile à suivre aussi. Et que ce personnage puissant, il est lié aussi au chemin de Marion pour y parvenir. Et ça, j'avais vraiment pas envie qu'on perde le fil du chemin de Marion pour incarner Carole, pour ressusciter Carole.
Dans votre dispositif, ce qui est important aussi, c'est le décor. Mmh. Et le décor, en fait, même si on voit différents lieux, elle marche, elle va au restaurant, elle est dans un studio de radio, on comprend bien que c'est le même endroit. Vous avez réussi à circonscrire l'action à un seul et même endroit. Mmh. En fait, d'une certaine façon, c'est un drame, voire une tragédie, où il y a une unité de temps, une unité de lieu.
Mmh. Oui, il y a une unité de temps, une unité de lieu, et puis il y a une histoire singulière, petite histoire, qui est celle de ma famille, mais en fait, c'est très universel. Moi, c'est ce qui m'a totalement désinhibée quand j'ai commencé à travailler sur le film, c'est que c'est mon histoire, mais c'est celle de ma mère, de ma grand-mère, mais c'est l'histoire du conditionnement de la femme, c'est bien, bien plus vaste. Et j'avais envie de jouer aussi avec cette idée d'un décor qui incarne à la fois une psychanalyse gérante, où j'arrive au début, j'ouvre les caisses, j'ouvre les tiroirs, je déballe tout par terre, je suis submergée par la matière, puis je mets tout au mur, ça devient comme un repère de serial killer. Sauf que là, je ne cherche pas à tuer quelqu'un, mais je cherche à comprendre pourquoi cette personne s'est tuée. Et ensuite, il y a mon obsession, je tourne autour de ma mère et on découvre Carole qui tourne autour d'elle-même, qui même quand on l'imagine dehors, marche en fait sur place sur un tapis roulant. Et effectivement, il y a ce subterfuge de décor les boîtes s'ouvrent et on comprend qu'elle est enfermée dans la même boîte. Enfin, c'était une manière physique, cinématographique, de raconter aussi ces destins de générations de femmes qui, malgré elles, parce qu'elles ne parviennent pas à en découdre, reproduisent les mêmes schémas, les mêmes histoires d'abus, les mêmes tentatives de liberté et les mêmes démarches de tentatives de création aussi. Ma mère ayant écrit un livre sur sa mère et la mère de ma mère ayant elle aussi écrit un livre sur sa mère et moi reproduisant ce geste maintenant avec ce film. Et évidemment, je me suis sentie un peu piégée et condamnée, un peu folle de refaire ce qui m'avait fait tant souffrir. Mais à la fois, c'était nécessaire. Et maintenant, je me dis, oh là là, j'espère que mes filles n'auront pas besoin d'écrire un livre ou de faire un film sur moi.
Votre film, c'est un peu un électrocardiogramme. On a l'impression qu'il y a de temps en temps des pulsions vers le bonheur, vers le fait de retrouver votre maman, votre grand-mère, et puis de temps en temps, vers des pulsions un peu plus basses, un peu de rage, un peu de violence, d'abord par l'acte incompréhensible. Vous essayez de comprendre, et puis il y a des choses qui vous révoltent aussi. Ouais. Et donc c'est intéressant parce qu'en fait c'est un battement cardiaque, votre film.
Ouais, j'aime beaucoup l'image du battement cardiaque. Mmh. En tout cas, moi ce qui m'a plu dans cette histoire, à partir du moment où ça a cessé d'être une souffrance intime, mais d'être une matière dramatique dont je pouvais m'emparer, ce que je trouvais génial, c'était les ambivalences permanentes. C'est des gens qui se sont fait beaucoup de mal, mais qui se sont fait aussi beaucoup de bien. C'est des gens qui ont pousser les autres vers le drame, mais à la fois il y a toujours beaucoup d'amour, et il y a en permanence ce contraste entre tentative de liberté, effondrement, chagrin, joie. Ce sont des femmes soumises mais très puissantes, et le film est ballotté en permanence entre tous ces contraires, et ça je trouve ça important. Et pour que tout ça ait quand même une ligne, il y a cette phrase que dit Oursenard quand elle cite Cocteau, qui dit « Si votre maison brûlait, qu'est-ce que vous emporteriez avec vous ? J'emporterais le feu. » Et pour moi, cette phrase, elle a vraiment... elle a porté mon chemin d'écriture, elle a donné un sens à ce film. C'est qu'il y a un désastre fou, jusqu'au suicide, jusqu'au pire, jusqu'aux abus, mais je voulais en permanence tirer le fil de liberté, de joie, de puissance et d'audace de toutes ces fractures.
Vous avez fait le choix qu'on ne voie que Marion,
ouais,
Cotillard de face, et vous, et pas les autres personnages qui interviennent. On les voit soit de dos, soit vraiment de biais, mais on les identifie qu'à la voix. Mmh. Pourquoi ce choix ?
Quand j'ai ouvert les caisses, j'ai trouvé la voix de ma mère, et cette voix, elle s'était enregistrée avec des survivants de son enfance pour les questionner au moment où elle-même écrivait un livre sur sa propre enfance et sur sa mère. Et ça m'a toujours semblé évident que je ne voulais pas rentrer dans une reconstitution réaliste de ces époques et de ces enregistrements et des interlocuteurs. Je voulais rester focalisée sur mon obsession pour elle et sur la volonté de Carole d'en découdre, d'une certaine manière, peu importe à qui elle s'adresse, puisqu'en fait elle rabâche les mêmes questions. Et ce qui est intéressant, c'est le parcours de Marion au fil du tricotage de ces extraits d'entretien. C'est son évolution physique, puisqu'on joue aussi, Marion rentre dans le personnage de Carole, et puis on va traverser la vie de Carole qui va aussi physiquement se métamorphoser au fur et à mesure du film. Et il n'y a rien d'autre qui m'intéressait. Et j'avais l'impression que plus j'allais rentrer dans le détail réaliste de ces reconstitutions de scène, plus j'allais m'éloigner de la dimension universelle de cette histoire, plus j'allais m'éloigner du personnage central de ce film. Il n'y avait que elle qui m'intéressait. C'est l'histoire d'une femme qui a été niée dans sa vie, qui a été ballottée dans ce milieu d'intellectuels et dans cette famille où elle a été aimée mais malmenée. C'est l'histoire d'une femme oubliée qui aurait pu finir oubliée si on n'avait pas déterré ses caisses. Et donc j'avais envie de lui rendre cet hommage-là, cet honneur, cette lumière, et qu'on ne filme qu'elle à travers Marion, pas les autres. Pour une fois, ils ne sont pas le sujet, alors que dans la vraie vie, évidemment, ils l'ont été, puisque les gens qu'elle va voir, c'est des gens qui ont été des intellectuels importants, des figures majeures d'un milieu privilégié. Elle était l'oubliée, ben voilà, j'avais envie de montrer l'autre versant du miroir et de les oublier eux pour ne faire exister qu'elle en face d'eux.
Mais justement, pour votre milieu, il y avait tout pour que ça puisse construire votre mère, côtoyer ces grands auteurs, ces penseurs, et finalement ce milieu toxique que vous montrez de façon précise. Enfin, ce que je veux dire par là, vous ne vous appesantissez pas là-dessus, mais ce que vous montrez suffit à comprendre. Ben, je parlais de toxicité, et même, on peut parler d'horreur, parce que quand vous montrez et vous expliquez le suicide d'Abdallah, c'est quand même fort, là, ça, c'est, ça prend.
Qui fait résonance avec le, celui de votre maman.
Évidemment.
Oui, oui, tout à fait. Ben, y a cette phrase que dit ma mère dans un de ses enregistrements, elle dit « J'ai un chien de ma chienne contre Genet, et à la fois, il m'a formé une forme d'intelligence, c'est mon ambivalence. » Et ça, c'est une question, c'est un dilemme, c'est une contradiction qui l'aura habité toute sa vie. On ne peut pas tout rejeter. Elle doit beaucoup à ce milieu, et de ses puissances, et de ses chagrins. Alors évidemment, le film raconte l'histoire d'une longue descente vers le suicide, donc c'est une forme aussi de réponse à ce dilemme-là. Ça dit tout le mal que ça lui a fait, mais moi aussi, d'une certaine façon, je me sens l'héritière traumatisée, mais très, très heureuse aussi, de ce milieu-là. Et moi, c'est ce qui m'a intéressée à réfléchir dans cette histoire, c'est le... Et je pense que toutes ces affaires qui se dévoilent aujourd'hui, qui se racontent, il faut prendre le temps de toutes les entendre, il faut prendre le temps surtout d'en apprécier toutes les nuances, accepter les contradictions, accepter que le grand mal vient de personnes dont on pourrait penser au préalable le plus grand bien, accepter qu'il continue aussi de... Voilà, quand on parle de Picasso, il faut surtout pas s'arrêter de regarder ses peintures. Il faut comprendre simplement pourquoi ces femmes pleurent, pourquoi elles ont le visage fracturé, et ça rend peut-être cette peinture d'autant plus intéressante. Ça nous permet de comprendre encore plus le monde à travers son œuvre. Et c'était toute la tentative de ce film, de ne pas porter de jugement trop hâtif, trop radical sur ce milieu. Et ma mère. Pour moi, en tant que fille, ça a été horrible parce que c'était impossible à suivre. Mais en tant que cinéaste féministe, réfléchir sa part d'ambivalence, c'est-à-dire sa part d'admiration et de dégoût pour ce milieu et les gens qui l'incarnent, eh ben, ça m'a passionnée.
Est-ce que votre regard n'est pas aussi celui de votre maman et je le ramifie avec votre, le film Le Cœur Vaillant, où les premières images, on voit un enfant qui regarde à travers... une caisse comme un filtre le nazisme et ce qui va arriver. Et on a l'impression que cette petite fille ou cette petite fille aurait pu être votre maman qui regarde à travers cette caisse un prisme de l'horreur tout en étant avec il y a toujours dans un attrait et une répulsion. Moi ça m'a donné cette image là.
Oui, c'est drôle, parce qu'en plus, les enfants cachés, pour le coup, c'est mon autre grand-mère, pas celle dont on parle dans Little Girl Blue, mais c'est vrai qu'a été une enfant cachée. Donc il y avait vraiment cette idée qu'une des enfants de Cœur Vaillant était ma grand-mère. Mais j'ai une filmographie très éclectique, certains diront totalement incohérente, mais il y a quand même... Donc moi, j'y vois quelque chose qui se dit toujours quand même un peu de la transmission du regard de l'enfant sur le monde des adultes. Et que ce point de vue-là, il me plaît, et qu'évidemment, quand je fais mon film, il y a à la fois une démarche très mature, je le sais, moi ça m'a fait grandir, ça m'a... mais je redeviens aussi la fille d'eux, donc une enfant. Et puis, tous ces drames dont on parle, ils sont venus se nicher dans l'enfance, et je crois qu'on reste profondément scotchés tous à l'endroit de l'impact le plus fort de nos vies. Et quand il s'agit d'un premier drame violent quand on est enfant, je crois qu'il y a cette part d'enfance en nous qui ne meurt jamais.
Ce qui est assez fou, c'est que Marion Cotillard incarne tellement en fusion votre maman que on a l'impression des fois que ce n'est pas elle à l'écran. Et que j'avoue, à la fin du générique, je me suis dit, alors, non c'est bon, c'était bien elle. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, quand elle a des expressions de visage, surtout dans les silences, ou alors quand elle est énervée, on ne voit plus Marion Cotillard, mais en fait votre maman qui prend vie.
Parce qu'en plus, pour compléter, excuse-moi, vous lui faites une synchro avec la voix de votre mère. Donc. Là, alors, on parle de mise en abîme, mais là, on bouge. Comment vous pouvez arriver à maîtriser tout ça? Ne pas être emporté par vos sentiments personnels.
Bah, C'est vrai que quand je comprends que le film... Il y a quelque chose où le cinéma m'a sauvé la vie aussi, dans ce qui m'a permis d'entreprendre. Et Marion, j'avais envie d'incarner ce moment où je lui remets les affaires de ma mère et qu'elle s'en empare, et de raconter aussi, puisque le cinéma m'a sauvé la vie, de rendre hommage aussi au travail d'une actrice pour parvenir à ce qu'on peut même presque nommer une forme de résurrection, en tout cas qu'on a complètement vécu comme ça sur le tournage. Et effectivement, il n'y a pas de miracle, il y a du travail, et il y a quelque chose qui transforme, tout d'un coup il y a de la grâce. En tout cas, sur les 8 jours, et c'est très très peu, c'était très dense comme tournage, ces 8 jours de tournage avec Marion, qui avait le premier jour où elle est arrivée en ayant énormément travaillé, cette chose très technique d'articuler de manière synchrone la voix de ma mère. Et malgré son travail, il y avait comme quelque chose de son corps qui résistait, de placement de mâchoire, de langue qui faisait que ça ne marchait. Puis elle s'essoufflait, elle était envahie par ses émotions. Et vraiment, j'essayais de lui dire, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est dans ce qu'on va ressentir et dans ce qui, effectivement, dans ce qu'elle faisait chavirer aussi en moi à travers la force de son interprétation. Et évidemment qu'on s'est nourri de choses totalement débordantes qui sont peut-être pas à proprement parler de la mise en scène ou du cinéma, mais qui sont vraiment des émotions de la vie. Et petit à petit, pendant le tournage, pendant ces 8 jours, qui étaient comme une plongée dans une transe très étrange dont on était tous complices, même l'équipe, on était une toute petite équipe, mais on était tous... Et tous les jours, on avançait, tous les jours, Marion était... tout son corps se métamorphosait, son visage aussi. Il y a eu évidemment... on a été accompagné par une équipe de maquillage, effets spéciaux incroyables, qu'on fait un travail d'une finesse dingue, et on avançait comme ça par paliers, et non seulement au bout d'un moment sa voix, sa mâchoire, sa bouche s'est métamorphosée et elle s'est mise à articuler la voix de Carole comme si ça, vraiment ça sortait de sa gorge, mais sa propre voix, elle, s'est métamorphosée. Et il y a eu comme un point de fusion incroyable qui donne presque l'impression que c'est une autre comédienne les derniers jours où on ne pouvait plus dire... plus différencié, ni physiquement, ni à l'oreille, Carole de Marion l'interprétant. Et ça c'était fou. Ça, je suis heureuse au-delà de cette histoire, comment le chemin de Marion pour parvenir à ce personnage témoigne de la puissance incroyable d'un film et d'un acteur. C'est fou ce qu'elle a fait.
Oui. À un moment donné, Marion Cotillard, il a fallu la convaincre. C'est un rôle magnifique pour une comédienne, mais est-ce que justement il n'y a pas eu un questionnement de sa part de vous fragiliser davantage?
Si, c'est drôle parce qu'elle me disait, je ne me suis jamais retrouvée devant ce dilemme-là. J'ai l'impression que plus je vais parvenir à aboutir ce rôle, plus j'ai peur de te déstabiliser. J'ai peur des émotions que ça va générer chez toi. Et je comprenais, et à la fois, elle s'est laissée aller, et on en a ri après, c'est-à-dire qu'il y avait l'odeur aussi, elle mettait le parfum de ma mère tous les jours. Et évidemment, moi, tous les jours, j'ai volé à la vie un temps qui n'existe pas, où ma mère défunte est revenue, et où Marion a joué le jeu aussi hors-champ, mais c'est pour ça que je voulais qu'on filme aussi le hors-champ qui existe dans le film. Elle a joué le jeu de me câliner comme une mère, de me dire des mots d'amour que ma mère m'avait pas dit, de prendre un temps d'écoute, de dialogue et d'amour. Elle s'était fait la porte-parole de Carole, au-delà de son interprétation. Évidemment, ça existe aussi dans le film. Et ça raconte la puissance d'un acteur. C'est pas juste un travail technique, c'est un chemin émotionnel, parfois délirant. En tout cas, ça a été le nôtre. Moi, je sais qu'aujourd'hui, puisque c'est aussi l'histoire d'une réconciliation et d'un apaisement, et que cette envie aussi avec ce film d'aller vers la lumière et vers d'une transmission plus légère pour cette histoire, pour mes enfants, etc. Quand je pense à ma mère, j'y pense autrement, différemment, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'apaisement, mais je me rends compte que c'est un peu cinglé. Je pense à ma mère Marion.
Parce que justement, par rapport à ce que vous disiez, dans le film, à un moment, puisque vous filmez et tout, on vous voit un moment caché derrière une malle, puis après, quand vous buvez le thé avec Marion,
ouais.
Et à un moment, vous ne pouvez pas vous empêcher de dire ben, « elle faisait comme ça
ouais. ».
Et Marion Cotillard vous répond « je croyais que c'était une pause ». Donc, moment, c'est saisissant.
Oui, il y avait... au départ, j'avais vraiment, dans cette idée de frontière entre enfance et cinéma, j'avais toujours envie d'être assise sur un petit cube ou planquée derrière un canapé. C'est-à-dire qu'à la fois, je la regarde sur mon écran de réalisatrice, mais en même temps, je suis vraiment la gamine planquée dans un coin qui regarde sa mère. Et puis, au bout d'un moment, si elle parvient à ça, c'est aussi qu'elle elle joue le jeu de mon obsession. Et elle accepte parfois une forme de tyrannie. C'est-à-dire que je l'ai poussée jusqu'à l'extrême, jusqu'à l'épuisement, pour que techniquement, émotionnellement, physiquement, de tout son être, elle puisse faire revivre Carole. Et que je voulais quand même, avec humour, parce que mon Dieu, il en faut, le feu c'est aussi l'humour, hein, incarner cette chose où en fait il n'y a pas de pause. Ce temps de tournage qui nous était donné, ce temps de présence qu'elle m'offrait, en fait, je supportais pas qu'il y ait de répit. Pendant le tournage, je l'ai jamais vue en dehors de nos moments de travail. Je n'en avais aucune envie. J'étais comme une gamine capricieuse qui voulait avoir sa mère pour elle. je voulais une scène qui raconte ça. Et en sous-couche aussi dans cette scène où je lui demande d'être vraiment très précise sur sa manière de boire le thé. Que ma mère buvait en faisant un foin d'enfer, je trouvais ça insupportable. Elle aspirait le liquide, elle le gardait en bouche mille ans, et puis elle l'avalait dans un gloops.
Rassurez-vous, c'est la seule scène trash du film.
J'ai détesté ce son, et en même temps, j'ai besoin qu'elle le reproduise. Et là, elle me demande, je lui dis, je détestais ce son, et elle me demande pourquoi le reproduire. Et voilà, et c'est tout le sens du film aussi. C'est pourquoi le reproduire, pour le revivre, pour le rejouer, pour le comprendre, pour en découdre, pour m'en libérer, etc., etc. Mais je trouvais que cette scène, elle racontait plein de choses du fond et de la forme de ce film.
Il y a une magnifique utilisation de la lumière. C'est impressionnant ce que vous faites, aussi bien de mettre Marion en lumière totale, avec des moments où on la voit même éblouie. Et d'autres où elle est dans le sombre, quand elle est sur le lit, par exemple. Cette scène est vraiment très forte parce qu'on sent toute la détresse du moment. Et en même temps, elle essaye de raconter quelque chose, elle met de la joie. Et à un moment donné, ça sombre totalement. Et vous avez cette photographie, ce cadrage qui est incroyable.
Ah bah merci. Non, l'image a été travaillée avec Noé Bach, qui est le chef opérateur du film. Mais c'est vrai que... dans cette idée d'unité de temps et d'unité de lieu, de jouer aussi avec les points de joie et les points de gouffre de cette histoire, il y avait évidemment l'envie de faire vivre ces contrastes à l'image, voire même parfois de commencer un plan séquence en jour et de le finir en nuit, et d'une certaine manière, puisque c'est aussi une longue descente vers le suicide, de montrer comment même les élans vers le haut irrémédiablement étaient ensuite tirés vers le bas par Carole, et de jouer avec ce temps qui passe et ces jours qui se lèvent et qui se couchent perpétuellement dans cet espace. Mais ça a été un travail vraiment passionnant.
Oui, votre maman, à un moment donné, elle évoquait le côté toxique de Jean Genet, sans préciser réellement pourquoi.
Si, pour moi, ce lien, il est assez clair. Il est parce qu'il faut vraiment accepter le parallèle direct entre Abdallah et Carole. C'est-à-dire que dans ce milieu d'intellectuels un peu discriminant, faut le dire, les femmes sont visées, mais aussi les Arabes illettrés, qui sont comme les êtres en faiblesse. Et si on raconte le chemin d'Abdallah, tout le monde le connaissait. Donc Abdallah, c'était l'amant de Genet, c'était un funambule magnifique qui un jour, pour impressionner Genet, a poussé trop loin un numéro, est tombé, n'a pas pu se relever, n'a pas pu remonter sur son fil. Et soudain, et c'était le mot qui obsédait Genet, il est devenu banal. Et il y avait ce mépris profond, parfois passionnant quand on suit dans sa littérature, mais qui peut être désastreux dans la vie, ce mépris profond de Genet pour la banalité. Et donc ma mère, toute jeune enfant, qui n'était pas banale, elle avait son tempérament, a été l'élu privilégié de Genet, qui lui faisait sécher l'école, sous la complicité de sa mère, qui n'est pas moindre. et qui lui faisait vivre tout un tas d'élans transgressifs, évidemment très émancipateurs et en même temps totalement destructeurs. Donc alors essentiellement, il a mis en scène, il s'est joué d'elle en mettant en scène une histoire d'amour entre ma mère, toute jeune enfant, hein, et son amant de l'époque. Il comparait leurs ébats sexuels, etc. Il la mettait au défi. Il la mettait au défi en permanence. Mais il avait une telle emprise sur elle. D'une certaine façon, il était tellement intelligent et fascinant que l'envie de l'impressionner et d'être à la hauteur de ce qu'elle attendait des gens qui l'entouraient a été trop forte. Et donc ma mère a poussé trop loin son envie de lui montrer à quel point elle était capable de plus et toujours plus de transgressions. Donc c'est passé par la drogue, c'est passé par la prostitution, et c'est passé aussi ensuite par le fait d'assumer une forme de banalité le jour où elle a choisi le conformisme d'une vie de couple et d'une maternité. Et ça, c'était un dilemme insolvable, parce que d'une certaine façon, s'accomplir elle-même, c'était accepter de trahir cette philosophie de départ qui est aussi très belle.
Oui, c'est l'ambiguïté de cette descente aux enfers provoquée par Jeunet, en fait.
C'est toute l'ambiguïté. Mais après, il y avait une perversion chez Jeunet. Alors oui, je ne rentre pas dans les détails parce qu'ils ne sont pas plus complexes que ça, en fait. C'était se jouer aussi des autres. Et, ça, voilà. Et Abdallah, donc, qui est ce funambule, qui n'a jamais pu remonter sur le fil, qui a vu Jeunet se désintéresser de lui parce qu'il était devenu banal, qu'une fois qu'il n'était plus sur le fil, il était juste un petit arabe illettré, pas intéressant. Il a voulu remonter coûte que coûte. Il y a eu une autre chute vraiment fatale et il s'est pendu, comme Carole. Donc d'une certaine façon, leurs deux trajectoires se rejoignent et racontent les forces et le désastre de ce lien avec Jeunet.
À la fin de votre film, vous montrez les caisses avec tout ce qui en fait a construit votre film, toutes ces photos, ces documents. Vous arrivez à prendre de la distance avec tout ce patrimoine qui est à la fois brillant, formidable, mais aussi tellement dérangeant pour vous.
Ah oui, oui, vraiment. Quand je disais tout à l'heure que je suis l'héritière traumatisée mais heureuse, c'est vraiment ça. Tout n'est pas à rejeter. Mais en tout cas, il était temps de faire le tri, et vraiment physiquement, dans le film comme dans la vie, il y avait 26 caisses au départ, il y en a 6 aujourd'hui, où j'ai gardé l'essentiel, ne serait-ce que pour que le jour de ma propre mort, quand mes enfants ouvriront la cave, il n'y ait pas ce mur d'archives épouvantable sur lequel moi je me suis heurtée. C'était une manière physique et psychique de les alléger de tout ça, et de ne pas tout rejeter non plus. Dans ces 6 caisses, il y a des choses que je suis vraiment contente de leur transmettre un jour, parce qu'il y a du beau dans tout ce lait.
Bien sûr. Comment vous avez travaillé le montage, choisi la partie que vous avez mise en scène et tout ce qui relève des images d'actualité ou des images de ce qu'a vécu votre grand-mère, votre mère, et aussi les photos? Comment vous avez pu réfléchir à tout ça, et comment vous avez écrit ce film pour cette histoire qui est finalement très claire?
C'est à partir du moment où j'ai vu les résonances permanentes entre la petite et la grande histoire, le parcours de ma grand-mère, de ma mère et de moi, avec les grands mouvements du conditionnement de la femme, des structures de notre société, ça m'a paru évident que le film devait... La grammaire de montage et de mise en scène devait être un chemin qui puisse mêler archives, photos, mouvements filmés sur le plateau, archives familiales, archives du monde, et aussi les films des autres. Et disons que la première moitié du film, a été peut-être plus longue à trouver que la fin. Tout était très écrit, mais il a fallu, avec la monteuse, avec Valérie Loiseleux, trouver le bon langage, trouver la logique de ce cadavresque d'image, presque. Il a fallu qu'on trouve cette chose qui fait qu'on avance dans l'histoire avec le plus de clarté possible, mais avec un flot d'images qui viennent puiser ce qu'on veut n'importe où. Mais ça a un sens. Et donc au début, c'est voilà, au début on a tâtonné, on a cherché le bon équilibre, et puis finalement ça s'est trouvé. Mais je voulais qu'en tout cas sur le fond et sur la forme, en permanence, on puisse raconter ce mélange intime et universel.
Quelle a été votre réaction la toute première fois que vous avez vu le film bouclé, fini sur grand écran?
En fait, c'est marrant parce que quand on fait un film, il y a pas, c'est difficile de pointer le moment où on voit vraiment le film fini sur le grand écran, parce qu'il y a tellement de toutes petites étapes. Même quand on a montré le film à Cannes, en fait, il n'était pas complètement terminé. Le film n'est pas exactement pareil. Il y a 99%, mais il y a des petits poils techniques. Disons que oui, là, il y a 3 semaines, c'est-à-dire vraiment longtemps après, il y a eu une projection de vérification, mais dans un laboratoire, pas du tout dans un cinéma, où on a juste vérifié la copie, et là, on se dit, voilà, ça y est, c'est vraiment fini. Il y a quand même un sentiment de soulagement, de joie, d'émotion, vraiment primaire, mais assez génial. Ouais.
À quel moment on décide que c'est fini, dans le montage? Parce que, après, chaque fois qu'on revoit le film, on peut avoir la tentation de rajouter quelque chose ou d'en enlever.
Je pense qu'il y a des films qui sont plus ou moins difficiles à terminer. Je pensais que celui-là, le montage serait interminable. Et puis, on a eu cette date butoir de Cannes. On avait une date de butoir aussi financière, on ne pouvait pas faire n'importe quoi, et on n'a pas eu si longtemps que ça. Mais à la fois, ce qui était bien, je crois que c'est un sujet que j'ai tellement mûri, tellement réfléchi, d'abord parce que c'est ma vie et que le périple d'écriture a été vraiment long, qu'en fait, les choses ont été beaucoup moins longues que je le pensais au montage. Il y a eu des petits paliers qu'il a fallu dégoupiller un peu de manière urgente, chanter que certaines choses résistaient. Surtout autour de moi, de ma place. Il y avait une pudeur que j'ai mis quand même jusqu'au bout en temps infini à vraiment dépasser. Mais c'est un film qui s'est trouvé assez spontanément, finalement.
Oui, je voulais parler des acteurs, comment ? Qui sont prestigieux. Des acteurs. Et comment avez-vous pu les convaincre de jouer des silhouettes, en fait?
J'avais cette question.
Non, mais ça, c'était vraiment incroyable. C'est qu'au début, je me suis dit, on va trouver des figurants, enfin, des acteurs non professionnels. Et en fait, très vite, je me suis dit, mais non, pas du tout. C'est d'une complexité folle, ce qu'il y a à faire. C'est des acteurs qui vont devoir quand même bouger leur corps au rythme d'une voix qui n'est pas la leur, être dans le regard de Marion Cotillard, le tenir, ne pas être intimidée et en même temps l'incarner suffisamment pour qu'elle puisse rebondir aussi dans son jeu. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, il faut des très très grands acteurs. Et ce qui a été trop beau, c'est que les 5 grands acteurs, Marie Bunel, Marie-Christine Adam, Pierre Osséda, Didier Flamand et Jacques Boudet, qui participent au film, tous les 5, ils ont eu hyper vite et ils ont dit oui tout de suite. Et ça aussi, je disais tout à l'heure, le film est un hommage au cinéma et à la puissance de l'acteur, mais d'une certaine manière, leur participation, ça raconte ça aussi. C'est-à-dire que pour le sujet, pour Carole, et pour accompagner Marion aussi dans son travail si compliqué, ils ont accepté de donner leur corps sans aucune reconnaissance de quoi que ce soit. On ne les voit pas, ils sont invisibilisés par le film, et à la fois, ils ont été indispensables à sa fabrication. Et quand on est à ce niveau-là de ces 5 acteurs, je trouve ça dingue de générosité et de beauté sur ce que ça dit du cinéma.
Parce que, juste c'est pour compléter par rapport aux acteurs, parce que alors vous demandez, il y en a qui seront des silhouettes,
ouais.
Donc qu'on ne verra pas, et il y en a d'autres qu'on ne verra pas du tout, mais dont on entendra la voix. Ils vont prêter, c'est-à-dire qu'il y en a qui prêtent leur corps au personnage,
ouais.
Et d'autres qui prêtent leur voix à des gens. Enfin, des gens qui ne sont pas des acteurs. Juan Goiti Solo, c'est pas un acteur.
Alors Juan Goiti Solo, c'est un acteur avec lequel j'avais travaillé, dont je suis très proche, Alex Brandemühl, qui a accepté de prêter sa voix. Il y a Jérémy Lévin aussi, qui est un acteur avec qui j'avais beaucoup travaillé et qui a joué le jeu aussi. Et Brigitte Si, merveilleuse, que j'avais jamais rencontrée et dont j'adorais la voix et qui est venue. Et pareil, il y avait cette chose que j'ai voulu tenir jusqu'au bout et pendant le tournage et en post-production de choses faites de briquet de broc, de films de famille aussi. Alors ça a de l'ampleur, mais j'aimais cette dimension artisanale. Et je crois que peut-être dans le chemin de fabrication, ça transpirait ça. Et en fait, on se rend compte que tout le monde est très heureux de mettre sa petite graine à l'édifice de ce genre d'entreprise. Il y avait une chose tellement intime que chacun, voilà, ça venait résonner chez les uns, chez les autres. Et ça a vraiment été un moment de partage génial. Mais c'est vrai qu'il y a plein de petits morceaux de plein de gens qui à la fois font que le film est ce qu'il est. Et il en a toute sa dimension, toute son épaisseur, mais avec une humilité incroyable, parce qu'on n'entend que leur voix, ou on voit que leur dos ou leurs mains.
Ceci dit, vous savez, les cinéphiles vont se régaler, parce que même d'indiquer que Jorge Semprún s'est joué par Didier Flamand, oui, ou Daniel Cordier par Jacques Boudet, ils vont être aux anges, parce que forcément, c'est le principe des questions qu'ils se posent souvent. Votre film, il est construit de manière chronologique, ça a été une aide pour Marion Cotillard.
Ah ben c'était, non seulement c'était une aide pour Marion, mais c'était indispensable pour tout le monde, même moi dans mon cheminement intime, elle aussi. Enfin, c'était impossible de déconstruire quoi que ce soit. C'est vraiment l'histoire d'une plongée vers les abîmes du suicide, mais aussi avec des retours de vie, des contradictions, une métamorphose physique. Et il y avait un chemin émotionnel à ne pas quitter. Le dernier jour, au moment où, parce que voilà, il était hors de question de modifier la vérité, il n'y a pas de suspense. À la fin, Carole s'en va, et c'était aussi dire au revoir à Marion. C'était une tension particulière la veille, puis le jour du tournage, on avait la conscience que c'était la fin, que c'était la fin de cette femme, que c'était la fin de ce rôle, que c'était la fin de ce film. Et non, il y a des films qui supportent vraiment la déconstruction au moment du tournage, et d'autres pas du tout. Et non, celui-là, on a tourné dans la chronologie.
Et combien de temps a duré le tournage ?
Bah, très peu pour un long métrage. On a tourné 16 jours. Moi, j'avais une semaine toute seule avec les caisses à les déballer, les coller. Enfin, il en reste 5 minutes dans le film, mais ça a été le plus long de préparer le décor. Et ensuite, Marion est arrivée et on a tourné 8 jours avec elle. Et il y avait une petite journée entre tout ça où on a fait un aller-retour au bord de la mer parce qu'on en avait besoin. Et sinon, Marion, c'est 8 jours.
Et pour revenir à Little Girl Blue, ouais, le morceau de Janis Joplin, vous avez choisi Janis Joplin, mais vous savez que ce n'est pas un morceau d'elle.
Non, je sais.
Vous savez que ce n'est pas un morceau d'elle.
C'est Nina Simone.
Ah non, c'est pas Nina Simone non plus.
Ah bon? Alors
c'est un morceau de 1935.
Ah bon?
Qui a été écrit pour un musical.
Ah
pour
oui.
Une comédie musicale.
Alors, je suis
et non. Et vous savez combien il y a eu d'interprètes de cette chanson?
Non.
Plus de 45.
Ah ouais?
Dont Nina Simone, bien sûr, mais Frank Sinatra, Judy Garland.
Je m'étais arrêtée à Nina
et Ella Fitzgerald,
c'est
vrai, Louis Armstrong, la liste est incroyable.
Okay, bon, bah alors là, je suis...
Et alors, j'ai un cadeau pour vous.
Mais non.
Si, parce que c'est vrai. Je fais mon Joël.
Tu fais
mon Joël.
Voilà,
ah.
C'est ça.
Voilà. J'ai trouvé. C'est tout à fait subjectif. J'ai pris 5 versions de ce morceau et à mon avis, il y en a 3, c'est les mieux.
Mais non, mais c'est dingue. Je suis arrivée.
Je regrette de ne pas avoir finalement
Je suis hyper touchée, vraiment merci.
Parce que c'est un morceau et le morceau de Joplin, elle... par rapport à tous les autres, elle a modifié 2-3 vers.
Ah ouais.
2-3 vers de l'histoire.
Mais de vers, c'est oui.
De vers, pas de. Même si elle vivait pas mal, il y a deux trucs, parce qu'elle conclut aussi en disant que Little Girl Blue, c'est elle.
Ouais, oui.
Alors que les autres ne se l'approprient pas. Et c'était sur son premier album, ça vous le saviez aussi.
Ah, c'est dingue.
69.
Non, mais je ne dis plus rien maintenant parce que. je suis hyper, hyper touchée. Hyper.
Alors, il y a dans ces versions, il y a évidemment celle de Nina Simone, je vous ai mis. Il y a Eddie, je l'ai noté. Il y a Eddie Harris, le quintet, énorme, fabuleux, vous verrez.
Ouais.
J'ai mis Janis. Et il y a une reprise par un groupe grunge énorme.
Ok. Ouais. Génial.
Et Stacey Kent pour le côté jazzy, et pour le côté ronflant, le truc bonbon qui fait mal aux dents, Linda Ronstadt qui faisait dans le folk, mais qui a fait ça, mais c'était pas pour elle, mais néanmoins il est dessus.
Ben,
wow.
Merci beaucoup.
Bravo.
De rien.
Merci.
Écoute, on ne peut que conclure là-dessus.
Merci. C'est trop chouette. Merci beaucoup.
Je vous avais pas menti. Hein. C'était vraiment un moment hors du temps et surtout de savoir comment elle avait décidé de prendre Marion Cotillard, de lui offrir un rôle. Le rôle qui la touche particulièrement puisqu'elle joue Marion joue la mère de Mona Achach et ça c'est complètement fou et c'est vrai qu'on parle de cette scène où on la voit arriver alors c'est très rigolo parce qu'on voit Marion Cotillard arriver avec une casquette sur la tête en personne qui vient passer un casting. Et là, on lui remet les habits de la défunte. On lui dit, voilà, il faut les mettre tout de suite. Donc, on la laisse pas se poser dans un endroit. Et là, on la voit revêtir ses habits, enlever les siens et revêtir ses habits, revêtir la perruque, mettre le parfum de la mère, de la défunte, et jouer totalement, fusionner avec le personnage, tellement elle fusionne que, vous l'avez entendu dans l'interview, je me questionne et je me dis c'est pas possible, il y a une doublure. Et je n'ai pas été la seule à le penser, parce que quand j'ai parlé avec la distributrice à un moment, et je lui ai dit c'est fou, je me suis posé la question et j'ai eu la réponse au générique de fin, puisque j'ai vu et j'ai dit, ah ben non, elle est toute seule, eh bien elle m'a fait oublier. Marion Cotillard, par son jeu, par son interprétation divine, m'a fait oublier qu'elle était Marion Cotillard. Et je n'ai vu en elle que la mère de Mona Achach. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'il y avait une doublure, qu'il y avait une autre personne, parce que elle était tellement imbriquée dans ce personnage que elle m'a fait croire qu'il y avait quelqu'un d'autre. Et je n'ai pas été la seule, hein. Comme je vous ai dit, j'ai discuté avec la distributrice et il y a des personnes qui sont venues la voir et dire « Oui, c'est qui joue la doublure de Marion Cotillard ?» Mais en fait, il n'y a pas de doublure. C'est elle qui fait tout. C'est elle qui est merveilleuse. C'est elle qui prend le rôle à bras-le-corps avec en face Mona Achach, quand même, vu que c'est elle qui joue dedans et qui joue son propre rôle de la fille. C'est un peu, oui, on pourrait dire un docu-fiction, mais on est vraiment plongé dedans et on a cette âme du film, on a vraiment cette patte incroyable. On ne peut que descendre, mettre un beau chapeau et faire chapeau bas, parce que c'est vraiment somptueux. Et comme on l'a dit, les autres personnages autour de Marion Cotillard, on les voit de dos, on entend, on voit leur silhouette. C'est une silhouette parlante et des fois, c'est une silhouette parlante avec une autre voix. Et ils ont prêté corps. Et quand on voit quand même le casting, Marie Bunel, Marie-Christine Adam, Pierre Osséda, Jacques Boudet, Didier Flamand, mais c'est pas n'importe qui. C'est vraiment pas n'importe qui. Et après, en acteur de doublage, donc la voix originale, c'est Brigitte Si, Alex Brendemühl et Jean Achache. Donc voilà, il y a vraiment un truc de folie. Et 97% des scènes, Marion Cotillard est dedans. Donc elle a été vraiment au bout d'elle-même dans ce rôle. Et d'ailleurs, Mona nous l'a dit qu'elle a passé le temps, qu'elle a épuisé dans ce rôle. Et à un moment donné, il y a une scène, on en parle justement avec ce fameux T, elle sort pas du rôle. On lui donne pas l'autorisation de sortir de son rôle. Elle a pas de pause, en fait. Il faut qu'elle fasse tout le rôle comme ça. Et c'est vrai que Marion avait peur de blesser Mona Achach par son interprétation, parce que à trop être la mère, elle renvoyait cette image et pouvait briser Mona Achache par rapport à son interprétation, et on comprend sa peur. Et quand on voit le film, on comprend encore plus ces choses-là. C'est un film qui est pas conventionnel. Je vais pas vous mentir. Voilà, on voit les personnages de dos, on voit le truc, on voit que Mona Achache est énormément Marion Cotillard, qui est, je le rappelle, sublime. Ça fait penser à une pièce de théâtre, mais en fait, si c'était adapté en pièce de théâtre, on n'aurait pas cette intensité. Parce que tous les jours, jouer autant que c'est retranscrit dans le film, c'est impossible. À un moment donné, tu as des failles, on est humain, et tu peux pas faire ça. Donc oui, on a l'impression que c'est une pièce de théâtre, mais c'est un film, et c'est un vrai petit bijou. Merci énormément, Mona Achache, pour ce cadeau, ce véritable cadeau, et cette ouverture, parce que c'est vraiment offrir aux gens eh bien un témoignage de votre propre mère, et je trouve ça très fort. Et c'est pour ça que je vous invite à vous rendre dans les salles de cinéma pour voir Little Girl Blue. Il sera au cinéma l'ABC, qui nous avait reçu pour l'avant-première et la projection presse. Et vous pouvez le découvrir dans d'autres cinémas en France. Donc n'hésitez pas à aller voir ce petit bijou, parce que ça vaut vraiment le coup d'œil. Rappelez-vous, ça sort ce mercredi 15 novembre.
C'était les années 50, on se poussait toutes pour être à côté de Camus. J'ai connu Genet, qui a profondément marqué ma vie. J'ai connu Marguerite Duras. C'était une très très grande époque.
Ça, c'est son jean. Elle mettait tout le temps ce collier.
Ma mère m'a laissé une énigme. L'histoire de notre relation. N'attendons pas exactement ce qu'elle avait déjà fait. Enquêtez sur votre mère.
C'était Chaud Devant Ciné avec Little Girl Blue. Rendez-vous au cinéma l'ABC ou ailleurs pour voir ce magnifique film ce mercredi 15 novembre. It's always tease, tease, tease. You'll have